Bonsoir tout le monde. Salam alaikum, mesdames et messieurs. On est très heureux d'être ici ce soir et avant toute chose, on voudrait remercier Festival Ciné Palestine de nous permettre d'exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien ce soir. On peut aider, on ne sait pas ce qu'on peut faire, on se sent démunis, on se sent désemparé, on se sent triste, on se sent en colère, on ressent plein de choses et on se demande à quel moment on peut agir. Alors merci à vous d'être là ce soir, on joue notre rôle dans ce rouage de solidarité, d'amour, d'espoir, de partage, de souvenirs. Et on pense bien sûr très fort à celles et ceux qui vivent ce drame absolu depuis déjà des décennies. Alors encore une fois, Ciné Palestine, nous on connaît, on soutient, on partage l'idée d'une expression à partir d'une histoire qui est celle de la Palestine, mais de toutes les histoires finalement, celles qui permettent de produire des films, de produire des pièces de théâtre, des textes, toutes formes d'expression artistique. Et bien sûr qu'il y a la musique, bien sûr qu'il y a la mélodie qui nous permet de nous retrouver ce soir. Alors cette mélodie pour commencer ce moment de partage avec vous, c'est une mélodie qui évoque l'exil qui fait partie de cet espace d'invention de toutes les identités en mouvement, l'exil qui se transmet même si on ne le vit pas soi-même. Cette chanson est en kabyle, c'est une chanson de Cheikh Hesnaoui, écrite dans les années 40. Elle s'appelle Intes Medies, donc c'est du kabyle, du berbère, et ça veut dire dites-lui de revenir. Et c'est une femme qui parle à quelqu'un qui va venir en France en lui disant puisque tu vas en France, si tu le croises, dis-lui de revenir. Dis-lui de revenir parce qu'il nous manque. Dis-lui de revenir parce que le jour de l'Eid, il n'est pas là. Dis-lui de revenir parce qu'on a besoin de lui. Intes Medies.
Intes Medies, Intes Medies, Intes Medies.
Bonjour à tous. Ça va peut-être pas être très facile de revenir après Mousse, Hakim, Serge et Rachid qui ont mis le feu à leur façon, comme d'habitude. Et ça fait du bien. Nous, on joue pas de la musique.
Si.
On va bien des fois. Et on va revenir dans le monde de Marie. Marie Rajabla, infirmière ici en 2003. Était responsable de mission pour Médecins du Monde en Cisjordanie, plus spécialement à Naplouse, en pleine intifada. On va vous lire deux petits textes, des points de vue, des opinions, des regards, un certain regard. Ça vaut le coup, c'est intéressant, c'est un peu ailleurs, c'est autre chose. C'est pas très joyeux, mais on va y aller quand même. Marie, là, dans ce texte-là, c'est l'extraterrestre. Son travail, c'était dans la maison des enfants à Naplouse,
une sorte de travail de tentative de réparation.
Mohamed, 3 ans, se tortille et se gondole sur sa chaise à regarder l'extraterrestre assis sur la chaise voisine. À chaque fois que la drôle de bonne femme émet quelques sons, il explose de rire, toute quenotte dehors. Même si le regard de certains enfants est grave, petit à petit, l'hilarité devient générale. Quant à l'extraterrestre, elle est cabotine. Alors elle en rajoute 3 tonnes pour séduire son public. C'est que, voyez-vous, venue d'une planète très lointaine, celle des grandes personnes, elle a une mission extrêmement sérieuse. Elle est censée donner la parole aux enfants pour qu'ils lui racontent les choses douloureuses de leur vie quotidienne. Comme si la parole, ça se donnait. Comme si un charabia, pareil, ça signifie quelque chose pour des enfants. Elle le sait et fait exprès de parler charabia. Elle adore ça.
Puis elle n'a pas le choix. Les grandes personnes vont lui demander des comptes. Alors, taratata, charabia, taratata, charabia, elle s'en donne à cœur joie. Mohamed rit à gorge déployée, les autres jouent le jeu. Faut pas croire, les enfants, c'est peut-être petit, mais c'est pas con. Ils savent y faire, même quand même ça devient de plus en plus sérieux. Mais quand même, ça devient de plus en plus sérieux, c'est même assez terrible. L'extraterrestre les laisse venir, regarde, écoute. Son compère traduit simultanément le souffle court. Lui aussi, il a 2 toutes petites filles qui se réveillent la nuit.
Quand Ahmed, Osama, Aya, Nida, Nour ou Yasmine racontent leurs peurs ou leurs cauchemars, Mohamed quitte un moment la salle. C'est Ahmed, 11 ans, qui se lance timidement. Il ne tourne pas autour du pot. Moi, j'ai tout le temps peur. Quand les soldats viennent dans notre maison, quand les chars sont dans la rue, quand ça tire dehors. La nuit, je fais des cauchemars. Les soldats viennent me tuer. Osama, 13 ans, le suit de près.
Quand je me couche le soir, j'ai peur de ce qui va arriver la nuit. Je ne sais jamais si on va être vivant le lendemain matin. Aya poursuit du haut de ses 7 ans.
Les soldats, ils sont rentrés chez nous à 3h du matin pour chercher des terroristes. J'ai eu très peur qu'ils tuent mon papa, ma maman et ma grande sœur. Nida, 12 ans, caresse le dos de sa petite sœur. On habite au-dessus de l'école et une fois, ils ont tout détruit dans notre classe. Le lendemain, quand j'ai vu ça, j'ai eu encore plus peur. Tout était cassé, il ne restait rien. On a dû aller dans une autre école le temps que tous les parents et les maîtres déblayent.
Yasmine, 15 ans, une des plus grandes filles, explique que lorsque le couvre-feu dure plusieurs semaines, il faut bien finir par aller à l'école. Ces jours-là, j'ai très peur et je cours dans la rue. Nour, 14 ans, clôt la ronde. Je pleure quand je vois à la télé les morts, les blessés, les mères qui pleurent. J'ai peur quand j'entends les chars dans la rue ou les avions qui tirent. L'autre fois, les soldats ont lancé des bombes lacrymogènes. J'ai senti que j'allais mourir.
Adia, Saad, Hamid, Dia, Ada sont restés silencieux. Plus personne ne parle. Mohamed revient. Il fait des grimaces et des cabrioles, brandit une feuille de papier et tourne dans la pièce en riant toujours. L'extraterrestre lui demande s'il fait une manif pour dénoncer tout ça. Trop, c'est trop. Décidément, cette bonne femme à la drôle d'allure l'amuse beaucoup. Les autres suivent son manège. Bon, voilà une bonne idée, Mohamed. Nous allons faire une manif. Mais il faut être sérieux, ça se prépare. Il faut d'abord savoir à qui on va envoyer notre plateforme revendicative.
Ça, c'est un mot charabia. C'est bien, on y revient. On hésite. Ça discute dur, les enfants. Vous savez, si on l'envoie aux parents, ils vont rien comprendre, ou ça va leur faire peur, ou encore, ça va leur faire de la peine. Et puis, ça ne servira à rien. Alors on pourrait l'envoyer aux soldats. Et ceux-là non plus, ils ne comprendront rien, ce sont des grandes personnes. Les seuls qui pourraient comprendre ce qu'on a à dire, ce sont les enfants.
Alors à l'unanimité, on a voté qu'on adresserait une lettre aux enfants israéliens. On s'est quittés drôlement contents. Chacun a un truc à écrire pour la prochaine fois et on mettra en commun. Les grands aideront les petits et les petits feront des dessins. C'est plus chouette, une plateforme charabia avec des couleurs. Et quand on l'aura fini, l'extraterrestre a dit qu'elle le ferait parvenir sur sa planète. Ça sera vraiment chouette. Lettre de Anne.
À tous ceux qui veulent la paix, la justice et la liberté. Nous, ce qu'on voudrait, c'est vivre en paix avec tous les gens, même ceux qui nous ont pris nos terres et notre pays. Nous, ce qu'on voudrait, c'est dormir tranquille la nuit sans le bruit des tirs ou des tanks, sans les aboiements des chiens et les cris des soldats, sans le bruit des maisons qui s'écroulent. Nous, ce qu'on voudrait, c'est vivre en paix comme tous les enfants du monde. Moi, personnellement, j'avais un ordinateur et des jouets, et quand les soldats sont entrés chez nous, ils ont tout détruit, même mon ordinateur. Ils ont jeté par terre tous les jouets, les vêtements et la nourriture. Tout était mélangé. Ils ont jeté mon père du lit, ils lui ont attaché les mains, ils l'ont jeté par terre. Ils nous ont fait sortir dans la nuit, il faisait froid, et après, ils ont commencé à battre les hommes et les ont obligés à se déshabiller devant nous, dans le froid. Et un autre jour, on n'a pas pu dormir pendant 3 jours et 3 nuits à cause des avions, des bombes, des tirs. Ce jour-là, j'ai vu de mes yeux des gens morts, du sang partout et des blessés. J'ai vu une dame qui attendait un bébé avec ses enfants et un vieux monsieur. Les soldats ont détruit leur maison et ils sont morts écrasés sous la maison détruite. Même si on réussit à dormir, on ne sait jamais si le lendemain on sera vivant ou non. Nous, ce qu'on voudrait, c'est vivre à la maison comme les autres, pas dans des tentes ou dans la rue. C'est que nos maisons, nos jouets, nos livres et nos affaires ne soient pas détruits. Pas vivre dans le froid, dans l'hiver et les tueries. Nous, ce qu'on voudrait, c'est vivre en paix et dans l'amour, vous et nous, la main dans la main, sans occupation et sans armée. Nous, ce qu'on voudrait, c'est planter ensemble des roses et des fleurs dans toutes les rues au lieu de voir pousser des checkpoints partout. Hanel, 10 ans. Avec la contribution de Yaya, Mohamed, Hassam, Aya, Neda, Yasmine, Nour.
Nous voudrions, à tous les enfants israéliens qui peuvent comprendre nos émotions et nos sentiments, aimeriez-vous que vos terres soient occupées, que vos parents soient tués? Quels seraient vos sentiments? Seriez-vous heureux? Que penseriez-vous si vous voyiez un enfant braver un tank et lui envoyer des pierres? Nous voudrions que vous veniez à nos côtés, que vous compreniez nos sentiments et que vous nous aidiez à nous obtenir la sécurité et la paix. Nous voudrions vivre ensemble sur une terre sans guerre, sans meurtre et sans destruction. Nous voudrions juste que nos droits soient respectés. Nous ne demandons qu'à nous entendre mutuellement. Nous voudrions que vous compreniez que nous aspirons à une paix juste, sans plus de haine. Nous voudrions que vous compreniez que nous aimons la vie comme vous l'aimez. Adèle, 14 ans. Yasmine, 14 ans.
Ce matin, alors que Naplouse était calme depuis plusieurs semaines, les combats ont repris d'abord dans le camp d'Ascar, puis dans le quartier de l'université à Najar. L'aube résonne de tirs de mitraillettes, puis les obus de mortiers s'échinent à débusquer les étudiants. Un transformateur électrique prend feu. Des carcasses de voitures écrasées jonchent les rues.
Assise sur la terrasse, à regarder impuissante les colonnes de fumée s'élever dans une atmosphère saturée de désolation, je me demande ce qu'une expatriée de mon âge est venue faire dans cette galère.
Les sirènes des ambulances et des pompiers, tout comme les moteurs des chars, déchirent la tranquillité de ce samedi de Pâques. Ici, à l'autre bout de la ville, le ciel est lumineux et limpide. Les chèvres et les brebis paissent. Les oiseaux volaient et gazouillent gaiement. Scène de la vie quotidienne dans ces territoires.
Si aujourd'hui, je sais un peu mieux ce que j'ai trouvé dans ce pays, il y a 3 mois, je ne savais pas ce que j'allais y découvrir, encore moins ce que je venais y chercher. Comme un soldat m'a demandé un jour, pourquoi une Française comme moi, parvenue à une certaine maturité et à une certaine sérénité, part-elle du jour au lendemain en Palestine? Certes, le sang arabe qui coule dans mes veines a pu frémir.
La Terre Sainte pouvait aussi attirer la petite fille élevée dans l'esprit de la Bible. Enfin, la citoyenne militante pouvait aussi voir là une manière de manifester son engagement au respect des droits de l'homme. En apparence, pas plus de raison que ça.
Je ne peux pas ignorer qu'à Toulouse, nous sortions d'une explosion qui a réduit certains d'entre nous à néant, réveillant d'anciennes catastrophes plus intérieures, celles-là.
Venais-je à la rencontre d'une autre génération de la Nakba? Venais-je me réconcilier avec l'être dévastateur de mon enfance en découvrant ici qu'un conflit ne se réduit pas à l'oppression d'un bourreau sur sa victime? Ma vie durant, j'ai œuvré à défendre la veuve et l'orphelin, mais aussi à me battre contre des moulins à vent et à construire des châteaux de sable que vagues emportent. Je n'en suis pas fier. En fait, c'est plus fort que moi.
Tout cela pour vous dire qu'il ne faudrait pas que vous croyiez qu'à force de traverser des zones de non-droit comme le sont les checkpoints, de visiter des maisons dévastées et d'écouter les récits de gens hébétés par la brutalité, nous ayons finalement choisi notre camp.
Croyez-moi, rien n'est aussi effroyable que d'être témoin du suicide d'un pays comme Israël, emporté dans la tourmente de la haine et de la violence. Rien n'est plus terrible que d'être témoin des outrages qu'un peuple fait subir à un autre et le rendre haïssable aux yeux du monde entier. Rien n'est plus intolérable que d'entendre une communauté comme celle des Juifs fournir des prétextes aux antisémites de tout poil. Pour avoir été invité à la Pâque juive des Samaritains avec nos collègues palestiniens, pour avoir goûté leur bonheur à se retrouver ensemble ce soir-là, pour avoir rencontré les femmes en noir et les militantes de la coalition des femmes pour la paix, nous savons qu'il est des hommes et des femmes qui résistent et luttent dans ce pays pour combattre la philosophie de la séparation qui enferme Israël dans un nouveau ghetto.
Citoyens du monde un peu fou, nous tentons parfois des rapprochements soi-disant impossibles pour apporter notre toute petite pierre à la construction de l'apaisement. Moi qui vous parle, je sais qu'on peut guérir des pires blessures. Sait-on jamais, sait-on pourquoi on part si loin? Avons-nous jamais la réponse un jour?
Dehors, c'est les chroniques palestiniennes de Marie Rajabla. Il y en a beaucoup. Il y en a. Ça a été très difficile pour nous de choisir les textes. Ceux-là sont apparus un peu évidents pour la situation d'aujourd'hui. Comment on peut imaginer que les enfants affamés de Gaza pourront avoir encore suffisamment d'espoir et de force pour écrire d'autres messages de paix comme ceux-là? On verra ce que l'avenir leur réserve.